Mon prochain invité, je pense, c'est pas une insulte, mais je regarde ça. Là. Je pense que c'est le Grégory Charles de la médecine. Ça se peut-tu? D'après moi, il dort 3 heures. Parce que non seulement c'est un excellent médecin, il est là, puis il est au front pendant la COVID-19, il a pris la peine souvent de parler aux médias. Absolument. Il a parlé une couple de fois, puis Dieu sait qu'on avait besoin, il y a tellement de désinformation. Fait qu'il donne des entrevues aux médias, on le voit dans De Garde 24-7.
Oui.
J'ai appris qu'en plus, il y a une distillerie.
Il a investi dans Côte-des-Saints, la distillerie, qui a remporté un prix d'ailleurs pour son gin.
Mais là, on va surtout parler de son livre. Parce que oui, au travers de tout ça, il a eu le temps d'écrire un livre. Ça s'appelle « Mes carnets de pandémie ». On rejoint le docteur François Marquis à l'instant. Bonjour.
Bonjour.
Avez-vous un bon sommeil? 3 heures? 4 heures? Ou?
En fait, ça prend juste beaucoup d'organisation, mais ouais. mon secret... C'est en fait que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, plus que la plupart de mes collègues.
Ah ouais?
C'est que j'ai des journées très remplies, bien organisées. Je perds pas beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. Mais je dors. Et j'ai pas le choix de dormir.
Ah non, pour faire tout ça, j'en conviens. Parlez-moi de ce livre-là un peu. C'est important. On traverse une crise qui est unique, on le sait, pour notre génération, dans l'histoire, tout ça. Et moi, des fois, je me pose la question, est-ce qu'on va en tirer les leçons ou est-ce qu'on va tout oublier ça ou on va garder, au moins, ça va servir à ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces carnets de pandémie?
Ben exactement ces raisons-là. La première, c'est que j'avais absolument pas confiance dans ma mémoire. On sait que toutes nos expériences un peu plus dures dans la vie avec les années, on a tendance à voir ça un peu rose, là, puis ça a l'air beaucoup moins pire avec le recul des années. Et je m'étais aussi dit, hey, le problème qu'on va avoir, là, c'est qu'il y a presque pas de témoignages, là. Il y a pas de film, il y a pas de visuel. Et le quotidien de ce qui s'est passé dans un hôpital qui a été très durement touché, il y en a eu d'autres, mais Maisonneuve, on s'est fait ramasser. Je me suis dit, ça a une valeur. Et tout de suite, au début, j'ai commencé à enregistrer des témoignages. L'idée, c'est venu de Marie Lambert-Chan de Québec Science qui m'a dit, on a besoin de savoir ce qui se passe. Peux-tu me dicter tes impressions à chaque jour? On a ramassé tellement de matériel qu'on s'est dit, ben, il y a de quoi faire un livre. Et faut pas se le cacher. Les médias électroniques, que ce soit Internet, que ce soit radio ou télévision, c'est bon pour la prise de conscience, l'information. Mais dans un petit spot de 3 minutes, là, t'as pas le temps de faire une grande réflexion ou d'exposer un problème complexe. Et Dieu sait qu'il y en a eu des problèmes complexes pendant la pandémie. Et c'est là qu'on se donne le temps dans un livre d'expliquer en 5 pages ou en 10 pages quelque chose qu'on n'aurait jamais pu expliquer en 3 minutes à la radio.
On va inviter les gens à lire le livre pour tout connaître un peu de là-dessus, mais juste là, comme ça, là, si vous aviez une ou deux choses à nous dire que vous aimeriez qu'on n'oublie pas, en relisant vos notes, là, cet exercice-là vous a forcé à revenir en arrière un peu, y a-t-il vraiment des choses marquantes? Vous êtes dit ça, là? J'espère qu'au Québec, on n'oubliera pas ça.
Il y en a beaucoup, mais juste comme ça, notre souveraineté en matière de santé, on est tellement dépendant des États-Unis, des autres pays, des fournisseurs, parce qu'on a toujours voulu, comme bien d'autres places, économiser puis payer toujours le moins cher. Mais quand tout le monde a besoin de gants en même temps, puis de masques en même temps, puis qu'on n'a pas d'entreprise ici, hein, la souveraineté en matière de santé, c'est ultra important. Une autre chose aussi que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est que quand tout va c'était pas évident au début, on les avait pas les réponses. Et la science, c'est ça, c'est d'être capable de rapidement trouver des réponses, mais de se rendre compte et d'accepter qu'il n'y en a pas de manuel d'instruction comment survivre à une pandémie. On l'a écrit. Et quand ça va être le temps de vouloir reconfigurer notre système de santé, le resolidifier, ça sera pas le temps de faire une chasse aux sorcières. Ça va être le temps de regarder quelles sont les choses qu'on doit consolider et pas refaire les erreurs de sous-financer un système et, par exemple, les CHSLD jusqu'à temps qu'on arrive à un point de rupture et qu'on dise « Oups, comment ça se fait qu'on a laissé ça déraper? » Ben là, on se l'est fait mettre en pleine face. Il faudrait peut-être qu'on s'en rappelle.
Est-ce que vous y croyez? Évidemment, vous faites l'exercice parce que vous devez y croire, bon, puis que ça fonctionne, que ça laisse une trace, qu'on tire des leçons, mais vous êtes dans le milieu de la santé depuis un bout de temps, là. Souvent, là, il arrive des événements, là, les politiciens calment le jeu, font des promesses, puis des fois, on oublie, là. Tu sais, on n'a qu'à penser aux urgences, aux infirmières. Il y a toutes sortes de dossiers que ça devient un peu redondant, on se fait promettre que ça va changer. Est-ce que, d'après ce que vous observez actuellement, là, vous avez espoir que on n'oubliera pas?
Ben, j'ai surtout espoir qu'on n'oubliera pas tout. C'est certain qu'il y a des choses qui vont devenir moins prioritaires, mais si on est capable de garder une mémoire collective et de régler peut-être des dossiers pendant que c'est chaud, puis après ça, de dire que c'est réglé, puis de maintenir ça. oui, il y a des choses qu'on va régler. J'ai la foi qu'on va être capable d'améliorer le système. Le rendre parfait, naturellement, ça n'arrivera pas, là. Mais je pense que si chacun est bien informé, puis c'est un peu ça le travail du livre, c'est de montrer les vraies questions qui sont posées, les vrais défis qu'on avait à rencontrer. C'est certain que s'il y a juste des gens du système de santé qui parlent pour le système de santé, c'est moins de voix que si l'ensemble de la population est informée, prend ça en main et dit aux politiciens et à tous les acteurs du système, ben ça, on n'acceptera pas de reculer sur ces questions-là. C'est de voir que les grands enjeux du système de santé sont aussi reliés à chacun et chacune d'entre nous, même si présentement on est beau, jeune et en santé.
On va l'espérer. Est-ce qu'en relisant des notes, il y a des choses, évidemment, il y a plein de trucs là que dans d'expériences que vous avez vécues, que vous avez dû vous dire, bon, ben ça, faut pas qu'on oublie pour apporter des correctifs, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des côtés un peu plus humains? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécu, mais vous étiez tellement dans le stress puis l'urgence, puis ça n'arrêtait pas, que sans dire que ça vous a pas marqué, vous êtes un peu passé à d'autres choses pour pouvoir continuer à fonctionner. Puis en relisant ça, vous êtes fait, hey, j'ai vécu ça, moi. T'sais, je pense qu'on a tous vécu un peu des affaires qui auraient peut-être mérité qu'on en parle pendant une semaine ou deux mois, mais là, il y avait tellement de drames et de tragédies, ça s'accumulait, qu'on passait un peu par-dessus. Est-ce qu'il y a des affaires en fouillant dans votre passé qui sont revenues comme ça en avant?
J'avais peut-être sous-estimé dans le feu de l'action l'impact de toutes les mesures extraordinaires, puis tout le travail qu'on a dû faire en plus, l'impact sur les équipes au complet, là. Honnêtement, l'impact, par exemple, sur la fatigue des infirmières, des inhalothérapeutes, leurs conditions de travail, moi, je courais tellement à gauche et à droite à essayer de tout faire, ça, je me suis peut-être pas rendu compte à quel point eux autres aussi avaient été sollicités de façon différente. Puis en relisant, ça m'est revenu de dire, ah tiens, regardons, ça c'était peut-être moins évident de ta perspective, là.
Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été faites selon vous qui sont maintenant flagrantes? Il y a des choses que, bon, la fameuse expression, on le sait, là, on bâtissait un avion en plein vol, on avait parlé tantôt, il n'y a pas de guide, tout ça, faut s'inspirer un peu du passé pour avoir un meilleur avenir. Mais est-ce qu'il y a des cas, dans le traitement des patients, là, je sais qu'il y a certains extraits de votre livre là, qui sont parus, est-ce que des fois on a manqué un peu d'humanité? Est-ce qu'avec le recul, vous pensez qu'on aurait pu en faire un peu plus?
Pour l'humanité, est-ce qu'on aurait pu mettre plus de télémédecine plus vite? Peut-être. Mais il faut comprendre que dans la première vague, là, une des raisons pourquoi on voulait pas que les gens viennent à l'hôpital, c'était que, un, on n'avait pas assez d'équipement de protection, puis deux, on voulait pas les rendre plus malades. La chose, pour moi, qui est pas encore réglée, c'est ceux que je dis qui sont morts de la COVID sans jamais avoir attrapé le virus, là. Les gens qui ont eu peur, qui sont terrés chez eux, qui sont morts d'infarctus, qui sont arrivés avec des AVC complétés, des retards dans des prises en charge de chimiothérapie, qui vont faire qu'il y a des cancers qui seront peut-être pas guérissables. Tout ça, ces espèces de gens qui ont été un peu mis à l'écart parce que la COVID a pris toute la place, je pense que je réfléchirais très, très fort à savoir s'il y avait des choses qu'on aurait pu faire autrement pour pas pénaliser ces gens-là et aussi l'impact de la peur, parce qu'il y a des gens qui auraient pu se présenter à l'urgence, puis on s'en serait occupé, mais qui sont restés à la maison par peur de la COVID. Est-ce que ce message-là aurait pu être modulé différemment? D'autres éléments, je pense, sur les stratégies pour informer la population. C'était gênant de laisser rentrer des équipes de médias quand on manquait tellement d'équipements. Est-ce qu'on aurait pu les faire rentrer un petit peu plus tôt? Probablement. Et quand on expliquait la maladie, est-ce qu'on a pris les bons moyens pédagogiques pour que les bouchées d'informations soient digestes pour des gens qui font pas ça dans la vie de tous les jours? Je pense que c'était absolument primordial d'enseigner à la population ce qui se passait. C'est au-delà de renseigner, il y avait de l'enseignement qui se faisait. Est-ce qu'on a utilisé tous les bons moyens pédagogiques pour le faire? Je pense que ça aussi, il aurait pu avoir des choses mieux faites. Là.
Il y a matière à réflexion. J'espère que nos dirigeants, etc., vont se pencher là-dessus, vont lire votre livre. Churchill disait « Don't waste a crisis ». Faut pas gaspiller une crise. C'est souvent, évidemment, que c'est beaucoup de malheur, ouais. C'est des drames, des tragédies, mais c'est souvent des opportunités de tirer des leçons, de corriger des choses, d'apprendre. De s'améliorer, d'apprendre puis d'être meilleur. On va tous se oui. le souhaiter. Docteur Marquis, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci. Au revoir. Merci.
Au revoir. 16h pile au FM 93, mes carnets de pandémie. Donc, le docteur Marquis qui a noté à peu près souvent sur une base régulière ses observations dans son hôpital Maisonneuve ouais. Rosemont, qui de son propre aveu s'est fait ramasser. Et puis, ben qui espère qu'aujourd'hui, on tire des leçons. C'est intéressant. Sur la, on parle souvent d'autonomie en matière d'alimentation.
Oui.
Ça, c'est une des obsessions de plusieurs communautés, puis avec raison. T'sais, on veut être capable de faire pousser chez nous, d'être autonome en matière de bouffe, de pas juste dépendre.
Manger local.
Hein? Manger local, puis si jamais il arrive de quoi, t'sais, ça, c'est derrière ça, il y a aussi l'idée que s'il arrive de quoi, les transports sont affectés, on a affaire, on est capable de se nourrir c'est à ça. Côté. T'sais, bon. En matière de santé, moi, j'ai retenu ça entre autres, quand on dépend de tout ce qu'il y a en Chine ou aux États-Unis,
ouais.
En termes de protection, de masques, de, mm-hmm. de gants, de toutes sortes d'affaires de main, j'espère. Mais je pense que oui, je pense qu'il y a des entreprises qui ont poussé.
Il y a du masque, là, notamment, tu sais, ce qu'on pense aux masques, ouais. là, U-masque, on a des masques québécois maintenant, tu sais.
Est-ce que le Purel aussi?
Ben oui, ouais. les distilleries qui sont, mais hey, ça, c'était surréaliste en tabarouette. J'ai hâte de compter ça à mes petits-enfants. Quand j'étais petit, le monde faisait de la vodka, faisait du Purel pendant
le. Ouais, c'est vraiment ça. J'espère qu'on sera plus autonome là-dessus. Après ça, il a parlé de plein de choses intéressantes aussi sur le facteur humain. Ouais. Est-ce qu'on a fait peur à du monde? Ouais.
Mais oui.
Mais si on n'avait pas fait peur à personne, si on avait, tu sais, il ne faut pas non plus aller l'autre bord, prendre l'aiguille de l'autre bord, comme on dit, là, puis dire, il n'y a rien là. Si on avait dit, il n'y a rien là, non. La pandémie, il y aurait
rien. Je souviens ce que j'avais dit au début de la pandémie. La peur est parfois salvatrice.
Parfois salvatrice, mais parfois, si elle est exagérée, docteur Marquis a un excellent point. Ouais. Si. S'il y a des gens qui ont trop fait peur puis que le monde ouais. a des infarctus chez eux puis ils se font pas soigner, c'est pas mieux là.
La peur est salvatrice, c'est pas la panique. C'est ça la différence.
C'est de trouver le juste ouais. milieu entre les deux.
Rappelez-vous la citation du docteur Arruda au tout début à une de ses premières conférences de presse où il avait dit la peur ça fait faire des crises de niaiserie.
Ouais. Ouais, mais ça c'était mais quand avant c'est, qu'on
mais sache oui, mais tu dans l'extrême.
Ouais. Ouais, mais ça, au début, tout le monde disait ça un peu parce qu'on pensait que c'était pas une pandémie bien dangereuse.
On espérait
ça. Fait que là, on disait tout, arrêtez de faire peur au monde. Je l'ai dit, il y en a plein d'autres.
On riait des madames à Trois-Rivières qui avaient des masques à l'épicerie.
Eh oui.
Eh oui, on a fait ça.
À un moment donné, bon.
À un moment donné, on avait deux masques aussi.
On s'est fait ramasser. Après ça, c'est ça qui est arrivé, ouais. comme le docteur Marquis mm-hmm. l'a dit. Mais là, si on continue à faire peur au monde quand on exagère, c'est pas mieux, là.
On va crier au loup.
Ah ouais, fait qu'il y a des leçons à tirer de tout ça. Alors, ça va être en librairie bientôt.
Demain.
De demain?
Oui.
Merci.